Salam alaikum, malaikum salam, bienvenue à
comme
tous.
Comment on dit chez vous en France?
direct. J'ai une question pour toi, Baptiste.
Voilà, disons, ça va vite. Ça va vite, là. Je me remets à peu de la petite musique du décompte.
On enchaîne direct, on n'a pas de temps à perdre.
Il n'y a pas de bonjour en français, il n'y a même pas de comment ça va. C'est direct une question, moi. Alors, qu'est-ce que c'est cette question?
Est-ce que tu as croisé Xavier Dupont de Ligonnès au Texas?
De Ligonnès? Non, toujours Ligonnès. Pas. Mais tu sais que... Alors, bon, peut-être que je vais répondre premier degré à une question débile, mais en fait, j'y crois pas du tout. Les gens qui disent « il a été vu », mais vous n'avez aucune idée d'à quoi il ressemble. Vous avez vu un mec qui ressemble à Xavier Dupont de Ligonnès d'il y a 15 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mais imagine... Non, mais premier degré, regarde, imagine. Un mec que... Parce que tu as vu du polygonais, c'est ni un mec de leur famille, ni un podcasteur que tu as vu des milliers de fois et tout. Hein. C'est un mec, ils ont vu trois photos de lui. Imagine un gars, tu as vu des photos de lui. Comment tu peux le reconnaître 15 ans plus tard, s'il a changé de coupe de cheveux, de barbe, de style? Impossible. Ouais, impossible. Ouais. Xavier Dupont-Ligonnès chauve avec une barbe, pas de lunettes, terminé. 15 ans plus vieux, personne ne le reconnaît jamais. À part si tu le connais, c'est ta famille. Tu vois, je veux dire, c'est ton frère ou quoi. Oui, tu vas te dire un mot. Eh, mais attends, tu vois. Mais un gars que tu as vu en photo, jamais. Donc en fait, ce qu'il voit, c'est des gens qui ressemblent aux photos que Xavier Dupont de Ligonnès de l'époque. Donc il y a les mêmes lunettes, le même type de visage. Mais évidemment, il ne ressemble plus à ça, tu vois. Donc tout ça, c'est à chaque fois, quand j'entends des trucs comme ça, je me dis, mais putain, mais c'est complètement bidon, tu vois. Évidemment, à moins que le mec soit un débile mental et qu'il n'ait pas changé de style, pas changé de coupe de cheveux, pas changé de lunettes, il faut vraiment être con, tu vois. S'il est encore vivant, il a vraisemblablement un style qui fait que tu ne pourras pas le reconnaître, tu vois. Et en plus, il est 15 ans plus vieux. Tu vois ce que je veux dire? 15 ans. Imagine le mec, il a pris, même s'il est pas con, imagine il a pris 50 kilos. Si vraiment tu veux qu'on te reconnaisse pas, tu vois ce que je veux dire? Le mec, il prend 20, il se laisse pousser une barbe, il se rase la tête, il met des lentilles au lieu des lunettes. Tu vas le reconnaître? Mais c'est l'a vu une fois en photo. Ouais. Jamais de la vie. Jamais de la vie.
C'est enfin bref. Clair et net. Ouais, pour ceux qui savent pas, il aurait été aperçu au Texas, mais évidemment.
Il y a un pauvre gars. Il y a un pauvre gars qui lui ressemble, qui ne sait même pas qui c'est Xavier Dupont de Ligonnès, un pauvre daron qui est en train de faire ses courses à Walmart. Il y a des mecs qui ont fait « Putain, c'est Xavier Dupont de Ligonnès !» Et maintenant, le mec, il ne sait même pas que les gens le recherchent.
Il n'a rien demandé, le mec, il avait une vie tout à fait banale.
Il a rien demandé, il a des lunettes. Et tout. C'est un mec avec des lunettes. C'est globalement.
Bon, on va fermer cette parenthèse.
Alors, moi, j'ai une question pour toi. On va voir si tu as la réponse. Voilà. Est-ce que... C'est dur à dire. Est-ce que sucer des queues qui puent pour de l'héroïne, c'est OK?
Un bordel de merde, on en a parlé dans le dernier live.
Des queues qui puent, attention, c'est pas juste des queues. Déjà, sucer des queues, bon. Mais moi, quand j'ai vu cet extrait, je l'ai envoyé dans notre groupe du podcast de No Country for Walkman. Et ce qui m'éclate en fait avec ce truc, c'est que le mec, il dit pas genre j'étais dans une... période sombre, tu sais, de ma vie, genre une période dark et tout, j'ai fait des trucs de ouf. Non, non, il dit, c'est OK. Genre, assumer pleinement et j'aime bien qu'il précise des queues qui puent. Il dit pas Jésus, c'est des queues, tu vois. Elle pue en plus, tu vois. C'est-à-dire qu'un truc qui aurait été une caricature mal faite des gauchistes il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est prom dog.
Ouais, ça aurait été dans les guignols.
Nous, on aurait voulu cracher notre venin sur des gauchistes et tout, tu vois, je veux dire. On aurait dit, ouais, il suce des queues qui puent et tout. Mais en fait, non, là, le gars, c'est pour de l'héroïne. C'est vraiment, on dirait, le gars a poussé les curseurs au max et il dit, c'est OK. Donc, c'est ça son message à sa.
Et c'est la normalité, ouais.
C'est
ça comme la normalité.
Oui, c'est OK. C'est OK, même. Ouais. Il encourage les gens à le faire, tu vois. Prendre de l'héroïne, mais en plus, à sucer des queues qui puent, quoi.
Parce qu'il y a quand même plusieurs limites, tu vois, t'es franchi. Prise d'héroïne. Sucer des queues, là tu es en public, avec le sourire.
Sucer des queues, sucer des queues qui buent, l'assumer, encourager les gens à le faire. Enfin bref,
on est dans un autre monde. Hein.
Oui. C'est pour ça qu'après ça me fait rire parce que ce genre de podcasteur et tout, je crois que c'était lui et son pote, je suis pas sûr parce que je les confonds tous, mais qui avait fait plusieurs vidéos sur moi, etc. Ah, oui. Et donc ça me fait rire quand les gens ils me disent, tu sais, des fois ils m'envoient des trucs, ils font ouais, le mec il t'a atomisé et tout. Gros! C'est un mec qui suce des queues qui puent pour de l'héroïne. Est-ce que tu penses que vraiment ça me touche ce qu'il pense de moi? C'est plutôt une bonne chose qu'il trouve que ce que je fais c'est de la merde, tu vois.
Baptiste atomisé par un mec qui suce des queues qui puent pour de l'héroïne.
Non, mais exactement. Tu vois ce que je veux dire? Si le mec il disait ah bah Baptiste Marchais, j'adore, je suis fan, là je devrais m'inquiéter, tu vois. Et globalement, ouais. Lui il l'assume, mais plus ou moins pour moi. Je vais te dire un truc, hein. Tous mes haters suivent des queues qui puent pour de l'héroïne, j'en suis convaincu. Je pense que tous les gens.
C'est dans le genre, quoi.
Je m'auto-convainc, tous les gens qui m'aiment pas, c'est des queues qui puent pour de l'héroïne. Donc, sachez que quand vous mettez des commentaires de merde sous Radio Dixie, genre le niveau intellectuel de ce podcast est vraiment bas, on sait que vous suivez des queues qui puent pour de l'héroïne. On le sait immédiatement.
Du moins, vous ressemblez aux gens qui. Vous dites que vous avez le même message des gens qui font... que les gens qui font ça. Donc, à vous de.
Exactement, il y a une ligne commune. Donc voilà, après c'est vous qui assumez ça comme vous voulez. Moi ça me rassure de penser ça.
Bordel. Et aujourd'hui les gars, pour fermer ces belles parenthèses du pont de Ligonnès.
Ça commence très très fort tout de suite. Voilà, tout de suite sur des sujets très forts.
Bordel. Aujourd'hui les gars, on va évidemment aborder la toute dernière nouvelle. La tentative d'assassinat sur Donald Trump, ça s'est passé hier, samedi. Mais on va aussi réagir à l'interdiction des cigarettes au Royaume-Uni pour toute personne née après 2008. Putain, ça va loin. Puis on va vous parler de la Turquie, où Erdogan a annoncé une exonération fiscale de 20 ans sur tous les revenus étrangers. Qu'est-ce qui sort là? Il y a Napoléon TV qui nous dit « Est-ce qu'il y a la pub sur la viande remplie de prot ?» Ouais, juste après, t'inquiète pas.
C'est un running gag. La pub Jerky, c'est un running gag. Bah, puisqu'on me le demande. Texas Jerky, toujours disponible sur jerkytexas.fr, le snack le plus protéiné du marché. C'est pas une merde remplie de sucre, de saloperies, etc. C'est pas des soi-disant barres protéinées avec de la prot de soja ou je sais pas quoi. Non, c'est de la viande avec de la viande. Voilà, 99% de viande, 1% d'épices. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est entièrement naturel, c'est fait par un artisan en France avec des vaches élevées en France, mais sur des recettes texanes. C'est bon pour vous, c'est facile à conserver, malgré le fait qu'il y ait zéro conservateur, zéro merde dedans. Et voilà, c'est tout. Mangez ça au lieu de grignoter des merdes, tu vois. Au lieu de si vous voulez mais pas finir à sucer des queues qui puent pour des Oreos, voilà. Texas Jerky, c'est quand même mieux. Voilà.
Ça, ça non, quelqu'un lui envoie cet extrait, peut-être que ça l'aidera.
Non. En vrai, tu sais qu'en vrai, on rigole, on se moque et tout. Mais là, pour revenir vraiment 3 secondes dessus, on est en face de quelqu'un qui a clairement besoin d'aide. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, tu peux pas le laisser. Là, c'est la noyade, tu vois. Le gars, il fait des trucs de fou dans sa vie, très clairement. Et en plus, il encourage les gens et tout. Enfin, personne ne me fera croire que ce mec est heureux. Et qu'il n'a pas des problèmes psychologiques, etc., et qu'il n'a pas besoin d'aide, tu vois. Le mec a clairement, avant même Texas Jerky, etc., le mec a clairement besoin de Jésus dans sa vie, tu vois. Donc, plus que quiconque, là, ici, sur ce chat. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir, plutôt que de juste cracher de la haine. Évidemment, ce n'est pas des gens que tu as envie d'aimer, mais globalement, c'est sûrement quelqu'un qui a énormément besoin d'aide, et ce serait bien qu'il ne soit pas entouré des connards qui lui disent que c'est OK, et que plutôt il y ait des gens qui essayent de lui dire que ce n'est pas OK, et de faire changer de voie. On ne sait jamais, tu sais. On peut croire que c'est irrattrapable, mais tu as des gens qui ont eu des vies de fous comme ça, et puis qu'on réussit à changer drastiquement. Donc,
mais à partir du moment où il fait ça avec l'argent du contribuable, parce que tout ça, c'est subventionné par le CNC, à partir du moment où il y a plein de jeunes qui l'écoutent,
c'est condamnable. Ils sont
un peu perdus et qui pour qui ça devient la normalité. Je sais pas si on n'est pas dans le mal là, plus que
bien sûr, c'est horrible. Mais justement, imagine la puissance de ce mec-là si demain il se convertit, il change de vie et tout. Le mec, il revient vraiment du dark, tu vois ce que je veux dire. Et le message qu'il pourra porter à ces gens-là qui l'écoutent, il sera d'autant plus puissant, tu vois.
Mon évolution après 40 jours de consommation de Texas Jerky.
De Texas Jerky. Exactement. From héroïne to Texas Jerky, t'imagines? On le sponsorise. Si tu nous écoutes, je ne sais pas comment il s'appelle, si tu nous écoutes et que tu en as marre, écoute, on est là. On te sponsorise avec Texas Jerky pour voir et ensuite ton évolution.
Bordel de merde. Parce que du coup, instant pub, moi je voulais vous dire que vous êtes déjà plus de 40 à venir faire votre carte de résidence au Paraguay avec moi. Et même s'il y a évidemment différents types de profils, je voulais vous parler d'un profil bien précis de personnes qui viennent faire leur résidence au Paraguay. C'est le profil des entrepreneurs qui ne gagnent pas des 1000 et des 100 et qui en ont marre de voir leur progression bridée par les impôts et l'inflation. Ici au Paraguay, vous pouvez vivre avec 500 euros par mois en vous serrant la ceinture et 1000 euros en vivant confortablement. Et sachant que vous êtes imposé à 0% sur les revenus internationaux, vous pouvez vous consacrer à plein temps au développement de votre activité sans avoir besoin d'un emploi en parallèle ou de dilapider votre capital. 500 euros par mois, c'est d'ailleurs ce que dépense mensuellement Aidan au Paraguay, un champion de Strict Curl. Il te suit assez assidûment, qui est passé par mes services, avec qui on va faire un vlog pour présenter son style de vie, incluant les différents endroits où il fait ses achats ici au Paraguay. Pour l'expatriation au Paraguay, mes services de consultation, ma merch, ainsi que mon Patreon, vous avez tous les liens en description, ainsi que pour les services et les produits de Baptiste aussi, évidemment. Est-ce qu'on se lancerait pas dans notre premier sujet, Baptiste ?
Allez, je suis chaud.
C'était efficace comme pub, droit au but.
Ah bien, très efficace. Ouais. 18 minutes de live. Alors, il y a combien ? Il y a 5 minutes de trucs au début, c'est ça ?
Ouais,
donc 13 minutes de vidéo. Putain, ça y est, il y en a, ils vont pleurer encore sur YouTube. 13 minutes de vidéo, ça n'a pas commencé. Mais vous avez vu quand même, on met des blagues. On ne vous fait pas des pubs, tu vois. On parle de queue, on parle de trucs.
Et 3 minutes de Ligonnès, 5 minutes de B2B.
Voilà, exactement, quand même. Ce n'est pas juste des pubs, ce n'est pas les pubs avant la météo, tu vois. Il y a quand même un petit peu de...
On essaie de vous divertir en parallèle. Ah oui. Parce que, évidemment, on est obligé de réagir à la toute dernière tentative d'assassinat contre Donald Trump. C'était hier samedi, on enregistre dimanche aujourd'hui. Le 5e en date, tout de même. Car oui, petit récapitulatif très rapide. En 2016, à Las Vegas, Michael Sanford a tenté de s'emparer de l'arme d'un policier lors d'un meeting de Trump au casino de Treasure Island pour tuer Trump. Ça, c'est la tentative la moins concluante, on va dire. Mais ensuite, en 2024, en Pennsylvanie, Thomas Crooks a tiré depuis un toit pendant un meeting, blessant Trump à l'oreille, tuant un spectateur et en blessant deux autres gravement. En 2024, en Floride, sur un parcours de golf, Ryan Rouse, armé d'un fusil de type AK-47, un SKS, a tenté d'assassiner Trump. Cette année, en février 2026, à Mar-a-Lago, en Floride, Austin Tucker Martin s'est introduit armé d'un fusil à pompe et d'un bidon d'essence dans la résidence de Trump. Et ce samedi 25 avril 2026, à Washington, donc, Cole Thomas Allen a ouvert le feu lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche, touchant un agent des services secrets. Ça commence à faire beaucoup, non, Baptiste ?
Ça fait beaucoup, là, non ? oui, bah... je tiens à préciser quand même qu'on a zéro info pour le moment, hein. Ça vient d'arriver, donc quand vous allez voir la rediff, vous aurez sûrement plus d'infos, il n'y a pas grand-chose à dire, on ne sait pas trop qui c'est. Apparemment, et je dis bien, je vais utiliser le, tu vois, je vais dire le conditionnel, vu que c'est tout frais, apparemment, ce serait un professeur, un mec qui était professeur. Ça a l'air d'être un métis, je crois. Voilà, on sait pas exactement. Donc, pour le moment, on a entendu qu'en gros, il s'est introduit. Forcément, il est arrivé directement. Il a essayé de passer le truc de sécurité. Il s'est fait tout de suite engager par le service secret. Du coup, il a répondu au tir et puis il a pas été abattu, visiblement. Hein, c'est ça, il me semble.
Il a été arrêté.
Ils ont réussi à l'arrêter sans le tuer. Donc, je crois que c'est ça. Visiblement, encore une fois, on en saura plus après. Est-ce que c'est Trump qui visait ? Est-ce que c'est le vice-président ? Est-ce que c'est la foule ? Parce qu'on ne sait pas, ça se trouve, il venait pour faire une tuerie de masse, tu vois ce que je veux dire ? C'est difficile à dire pour le moment. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait. Donc on ne peut pas non plus en dire beaucoup. Moi, ce que j'aimerais dire, parce que je vois les réactions, ce qui me fait rire, c'est les gens qui disent que c'est un complot, tu sais. Ouais, c'est des mises en scène et tout, c'est toujours des mises en scène. Mais comme si c'était dur à croire, enfin je comprends pas parce que c'est pas des choses dures à croire, tu vois. Comme si c'était dur à croire que aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, vous avez je crois 66% des démocrates qui disent qu'on peut utiliser la violence, c'est selon les sondages aux États-Unis, qu'on peut utiliser la violence comme arme politique. Donc 66%. Il y a des milliers de vidéos de démocrates qui agressent, tu sais, on voit qui utilisent la violence, mais en France aussi, hein, des gauchistes, ouais. Je veux dire, ça arrive tout le temps et tout. Il y a énormément d'études et de cas observables de montrer que chez les démocrates, il y a aussi beaucoup de gens qui ont des problèmes mentaux, tu vois. Donc, on est dans un pays de, tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire, là, il y a peut-être 60, je sais pas, il y a peut-être 150 millions ou 170 millions de démocrates aux États-Unis, tu vois, un truc comme ça, 160 millions,
c'est ouais, ouais, un truc dans le genre, ouais.
De démocrates aux États-Unis sur 160 millions, sur en sachant que 66% cautionnent la violence, en sachant que dans le lot il y a des dégénérés, etc., et en sachant que Trump est ultra
diabolisé,
clivant. En quoi c'est dur à comprendre qu'il y ait 4 ou 5 mecs qui se disent moi je vais le tuer, tu sais. Enfin, c'est pas c'est évident, tu vois. Enfin, c'est pas la croix, il n'y a pas besoin de faire des complots, etc. Vous imaginez bien que sur le nombre, évidemment, tu vois. Et bon, c'est tous plus ou moins des teubés, donc. Non, mais globalement, ça marche pas, tu vois. Ils font des trucs de teubés.
Ah oui, je sais ce que tu veux dire.
C'est pas non, tu vois, c'est pas incroyable du tout. C'est pas incroyable du tout à croire.
Ouais, vraiment, enfin, ouais. Vraiment. D'ailleurs, en parlant de Trump et de clivant, il y a un mec qui filmait deux télés. Une où il y avait Fox News et l'autre où il y avait MSNBC ou je sais pas quelle chaîne de gauche. Trump était ultra orange sur la chaîne de gauche et il avait un teint de peau tout à fait normal sur Fox News.
Ça m'a fait rire. Oui. Ils font toujours ça. Ils font toujours ça.
Et pour vous donner un moyen de comparaison, Obama et Biden n'ont chacun subi qu'une seule tentative mineure, des tirs sur la Maison Blanche en 2011, alors qu'Obama n'y était pas présent. Et pour Biden, un camion lancé contre une barrière près de la Maison Blanche en 2023. Donc on est quand même très loin de ce que Trump a subi en termes de tentative d'assassinat.
Oui, mais bon, c'est évident, hein, c'est évident.
Et puis c'est pas comme si dans l'histoire de l'humanité, il n'y avait pas eu plein de chefs qui avaient été assassinés. Jules César...
Mais non, mais même aux États-Unis, Lincoln est mort, Kennedy, Roosevelt s'est fait tirer dessus. Je veux dire, ça arrive, tu vois. C'est arrivé quand même pas mal de fois. C'est pas non plus, tu vois.
Puis ça fait partie des gens qui ont le plus de chance au cours de leur vie de subir un assassinat, les responsables politiques, les chefs, les présidents, parce qu'ils sont médiatisés et puis ils sont clivants, c'est évident. Ça a été quand même confirmé, ça aurait été confirmé par le FBI, mec, que c'est un Afro-Américain de 31 ans. C'est vrai qu'il a l'air plutôt métis, mais ils l'ont qualifié de black. Oui. Californien.
C'est plus simple.
Californien et enseignant. Donc là, on a quand même le combo gagnant.
Oui, c'est le turbo-démocrate.
En décembre 2024, il a reçu le titre de professeur du mois avec sa photo encadrée.
J'ai vu. Bon, après, c'est pas non plus un truc de ouf. J'ai vu, c'est le truc interne à l'école. Il suffit qu'il ait fait un bon atelier de pâte à sel ce mois-ci ou un truc. Je sais que les gens, ils triquent là-dessus parce qu'ils se disent putain, le mec, professeur du mois, et après, il assassine Trump. Mais il essaie d'assassiner Trump. Mais après, bon, c'est dans des périodes de temps différents et c'est pas lié, tu sais. C'est pas qu'il a été élu professeur du mois parce qu'il a essayé. J'imagine.
Ouais. Et la probabilité qu'il ait sucé une bite qui pue est supérieure à 50%.
Et voilà. Putain, mais si cet épisode il est monétisé avec toutes les bites qui puent qu'on a mis, ça serait incroyable.
Surtout en début d'épisode comme ça. Ah là là. Est-ce que tu as autre chose à rajouter pendant que j'ajoute le... Je vais prendre quelques secondes alors pour ajouter à l'écran l'extrait auquel je veux te faire réagir, auquel je veux vous faire réagir. Alors, pour cette prochaine actu, on va rester dans le monde anglo-saxon, au Royaume-Uni, où le Parlement a voté l'interdiction des cigarettes pour toute personne née après 2008. Écoutez-moi ça.
Au Royaume-Uni, les personnes nées après 2008 ne pourront jamais acheter légalement de cigarettes. C'est la mesure drastique prise par le Parlement cette semaine. Le tabagisme est responsable au Royaume-Uni de la mort d'environ 80 000 personnes par an et d'un quart des décès par cancer. Alors pour le Parti travailliste, ce vote est une grande victoire.
Cela va créer une génération entière sans tabac. C'est la plus grande décision de santé publique depuis des décennies. Elle va sauver des vies.
It will save lives. Une décision radicale qui peine cependant à convaincre les jeunes générations.
Ça va se transformer en un phénomène de marché noir, où les gens en achèteront dans la rue, ce qui incitera les plus jeunes.
Je ne pense pas que ça va avoir un impact sur les jeunes, parce que la pression sociale existera toujours, et c'est comme ça que ça commence.
Le texte prévoit également une hausse du prix du paquet de tabac à presque 20 euros et l'interdiction de fumer et vapoter dans de nombreux lieux publics, des mesures qu'aimeraient voir appliquées en France de nombreuses associations de lutte contre le tabagisme.
En agissant maintenant, on ouvrirait au niveau de l'Union européenne véritablement une porte sur l'arrivée à une première génération sans tabac et que ça ne soit plus juste quelque chose de déclaratif, mais une réalité de santé publique.
Un texte similaire a été déposé en France en fin d'année dernière et vise à interdire la vente de tabac à tous les jeunes nés après 2014, une proposition qui n'a pour le moment pas été débattue à l'Assemblée.
Réaction Baptiste.
Là, le dernier info, je l'ai pas compris. Les jeunes après 2014, mais attends, ils ont quel âge là, les jeunes qui sont nés en 2014? Ils ont.
C'est une proposition de loi pour les futures générations.
Ah oui, parce que là, ils peuvent pas acheter de cigarettes encore. On est d'accord. Oui. C'est pas, je suis pas en train de triper là.
L'idée, c'est de leur interdire des cigarettes.
2014, là, ils ont pas 18 ans. Oui, non, mais d'accord, ok. Mais pour le moment, donc ils peuvent
ils
pas.
Ils ont 12 ans. Ils
ok, ok. Temps, parce que là, j'étais en train de me dire, attends quoi? Mais ils peuvent pas. Ok, ok, ok. Bon. Alors pour l'Angleterre, ben c'est alors moi qui suis vraiment un anti-cigarette, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que vraiment j'encourage vraiment les gens à arrêter de fumer. C'est vraiment une merde sans nom la cigarette, c'est un des premiers poisons vraiment. Je veux dire, c'est hallucinant de voir le nombre de maladies cardiaques, de cancers, etc. que ça provoque. Tous les gros fumeurs réguliers arrivés avant 60 ans se retrouvent, tu vois ce que je veux dire, à l'hôpital, c'est quasiment tout le monde. C'est hallucinant quand vous allez vraiment voir les chiffres dans les hôpitaux, quand vous parlez à des gens qui travaillent dans les services de réanimation, etc. Si on exclut les personnes très âgées, c'est rempli de fumeurs, tu vois. Donc, et en plus, ça coûte extrêmement cher, tu donnes énormément d'argent à l'État. Donc vraiment, c'est la cigarette, c'est la merde absolue, vraiment. Mais, donc c'est pour vous dire que voilà, je suis vraiment pas un défenseur de la cigarette. Néanmoins, évidemment, c'est n'importe quoi comme mesure, tu vois. Déjà d'une, parce que malgré tout, les gens devraient avoir le choix. Mais, tu vois ce que je veux dire, c'est pas en obligeant que ça n'a jamais marché, ce genre de truc. Regardez le cannabis, tu vois. C'est interdit, tu vois. Et tout le monde fume, littéralement en France. Vu qu'il y a zéro éducation sur le sujet réel, que c'est des espèces de. À chaque fois, quand on parle du cannabis, c'est très mal foutu. C'est des vieux boomers gendarmes qui viennent dans la classe et qui disent faut fumer pas de cannabis. Évidemment, ça marche pas. Mais vu qu'il n'y a pas de culture, tu vois, d'éducation, etc. sur le sujet, ben voilà, tout le monde fume. Littéralement, en France, c'est hallucinant. Sur les gens de ma génération, il y en a 6 sur 10 quasiment qui fument du cannabis régulièrement. Donc ça, et c'est, pourtant, c'est soi-disant interdit. Donc ça, c'est du gros truc, des gros trucs bidons. Donc, comme le mec disait dans la vidéo, ça va en plus développer le marché noir, c'est évident. Et les produits, du coup, de tabac qui sont non conformes, des cigarettes venues de je ne sais pas où, des faux, etc. Donc, bref, ça va être sûrement pire. Ce qui m'étonne, j'aimerais savoir d'où ça vient et j'aimerais bien creuser pour voir qui a fait passer, arrive à faire passer ça et tout. Parce que ça m'étonne que l'État s'ampute d'un si gros revenu. Tu vois ce que je veux dire?
C'est vrai.
Je suis très étonné. À mon avis, je pense pas que ça vienne de l'État. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça vient de groupes influents. Tu vois ce que je veux dire? D'opposition. À mon avis, hein, bah, c'est une supposition parce que j'ai pas étudié le sujet. Mais je pense que ça vient de groupes d'opposition. Voilà. Et qui ont réussi à faire voter, tu vois. Non?
Okay, c'était proposé par le Parti travailliste.
Okay, mais c'est pas ceux qui sont au pouvoir. Ah si, c'est ceux qui sont au pouvoir.
C'est le parti travailliste, le premier ministre.
C'est étonnant, tu vois.
Mais en fait, il faut voir ça aussi de l'autre côté. C'est qu'ils pensent économiser des milliards en ce qui concerne
La sécu.
La sécu anglaise.
Ça marche pas, ça marche pas.
C'est ce qu'ils mettent en avant, en tout cas. La National Health Service, l'équivalent de la sécurité sociale au Royaume-Uni, va économiser des milliards et des milliards d'après eux.
Ouais, faut le temps, hein. Parce que,
à long terme, ouais.
Parce que le temps que ça arrive sur ces générations-là. Ensuite, le truc, c'est que.
Est-ce qu'ils vont vraiment arrêter de fumer?
Non, non. Puis même, imaginons qu'ils arrêtent. Tu sais, quand tu fumes des cigarettes, les problèmes de santé, c'est pas immédiat. Ça met des dizaines d'années. Donc, faut déjà le temps que ce soit sur cette génération-là. Et ensuite, que ça arrive au temps où ils auraient eu potentiellement commencé à avoir des problèmes de santé, tu vois. Donc là, on parle de. Tu vois, c'est-à-dire que quand les générations. Ils vont économiser de l'argent quand les générations nées en 2008 auront dans la cinquantaine, soixantaine. Donc, on n'y est pas, tu vois. Là, t'es né en 2008, t'as quel âge aujourd'hui? J'ai l'impression d'être un méga boomer. T'es né en 2010, t'as 16 ans. Donc, 2008, t'as 18 ans. Oui, bah oui, voilà.
C'est ça, ouais.
Donc, 18 ans. Donc, c'est dans 30 ans, genre 30, 40 ans, qu'ils vont commencer à économiser de l'argent. Soit 10 ans. Mais si ça fonctionne, quoi. C'est ça le truc. Moi, j'y crois.
Quel est l'intérêt direct pour l'État de faire ça, quoi? Sachant qu'il faut
oui, j'ai du mal
des choses par intérêt direct.
Bah ouais, c'est ça. J'ai du mal à comprendre. D'un côté, c'est un autre moyen de contrôle.
Parce que la réalité, c'est que, bon, après, comme tu dis, c'est des répercussions dans très longtemps. Mais on est quand même sur, comment dirais-je, une assurance santé qui t'est imposée, la Sécu. Et en plus, qui t'interdit de faire ce que tu veux.
Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Je pense que, en fait, notre réflexion, elle est mauvaise. Parce qu'en fait, je pense que tu as raison. Et en sécu, il y a plus à gagner qu'en taxe, certainement. Tu vois,
c'est j'ai l'impression, hein, parce qu'en plus, une assignation.
Parce que pour le vrai, c'est le numéro 1. Hein. C'est le facteur numéro 1 des maladies cardiaques en France, en tout cas. Donc, j'imagine qu'au Royaume-Uni, c'est pareil, tu vois. C'est vraiment gigantesque. Hein. Je pense que la cigarette, c'est un des trucs les plus sous-estimés en termes de dangerosité. Les gens ne se rendent vraiment pas compte. Il faut vivre dans des milieux où ça fume beaucoup ou être dans un milieu hospitalier pour s'en rendre compte. Parce qu'on dit, en fait, les gens parlent de cancer du poumon. Mais les cancers du poumon, ce n'est pas du tout le truc le plus courant tout de suite. C'est les maladies cardiovasculaires. Les gens qui font un infarctus à entre 50 et 60 ans parce qu'ils fument depuis qu'ils sont au lycée ou quoi, c'est très, très, très courant. C'est hallucinant, mais vraiment, on ne se rend pas compte. Et d'ailleurs, on fume énormément en Europe. Hein. Par rapport à d'autres pays, en France, en Angleterre, etc., en Europe de l'Ouest, on fume énormément, énormément.
Mais toi, je crois que ça, tu dois quasiment jamais croiser quelqu'un qui fume dans la
rue. Non, ici, la cigarette, c'est pas du tout c'est développé, surtout pas chez les jeunes générations. Après, ici, il y a beaucoup de produits de tabac à chiquer, des poches, des machins, etc., donc qui créent d'autres problèmes, pas du tout les mêmes problèmes que la cigarette, mais qui créent d'autres problèmes, des cancers de la gencive, du palais, etc., de la langue. Mais pas, c'est pas aussi dramatique effectivement que la cigarette, ouais.
Apparemment, entre la productivité qui augmente et puis la baisse des dépenses publiques dues aux maladies reliées au tabac, il pourrait y gagner à terme.
Ouais, j'imagine. Bah, ça, j'imagine. Hein, j'imagine. Ils mettent rarement des buts contre leur camp, mais bon.
Ouais, parce qu'au final, voilà, est-ce que c'est le message principal, c'est est-ce que c'est vraiment à l'État de vous dicter ce qui est bien.
Exactement. Voilà. Enfin, moi, je vous encourage vraiment, si vous fumez la cigarette, arrêtez cette merde. En plus, c'est le problème avec les fumeurs de cigarettes, c'est qu'ils sont accros. Grave, tu vois. Et être accro à quoi que ce soit, c'est gay. Je suis désolé de vous le dire, mais honnêtement, c'est scandaleux de voir des mecs d'âge mûr, tu vois ce que je veux dire, solides, etc., être dépendants d'un petit truc comme ça et se sentir comme des merdes dès qu'ils n'ont pas leur paquet. Je veux dire, c'est pas normal. Honnêtement, c'est pas normal. Si vous êtes accro, que ce soit autre chose, hein, à l'alcool, au cannabis, à n'importe quoi, c'est pas normal. Vous pouvez pas vous faire dominer par ce genre de truc. C'est ridicule.
Toi, t'as déjà fumé une clope dans ta vie ou jamais?
J'ai déjà goûté, oui, j'ai trouvé ça immonde. Mais après, le truc, c'est que comme moi, j'ai goûté au cigare assez jeune, tu sais. Alors, le cigare, ça se fume pas, etc. Il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas d'accoutumance, tout ça. Mais je parle au niveau du goût. Tu sais, c'est comme un mec, qui par exemple, mange du très bon chocolat, tu sais. Imagine que tu manges, t'as l'habitude de manger du très bon chocolat. Le jour où tu goûtes un Kinder, tu vas trouver ça dégueulasse, en fait. Et bah, c'est à peu près la même chose. Ah, quand tu goûtes au tabac. Donc, un cigare qui est un tabac pur, sans aucun produit chimique, sans rien. Tu sais, c'est le produit le plus pur au monde aujourd'hui, le tabac des cigares. Pour donner une ordre d'idée, quand tu prends chez de grandes fabriques, les plants de tabac sont carrément. Ils pensent carrément plan de tabac par rapport au couloir aérien, etc. Tu vois, la molécule la plus pure au monde. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, zéro pesticide, rien. C'est vraiment le produit bio par excellence. C'est les grands cigares, les cigares de grande maison, c'est le produit le plus bio au monde. C'est-à-dire où on essaye d'avoir le truc le plus pur. Parce que forcément, ça se sent beaucoup. Donc, quand tu goûtes ce genre de tabac qui sont très bons, etc., qui sont faits avec des plants particuliers, des races particulières de tabac, récoltés de façon particulière, etc., alors que la cigarette, bah, c'est du tabac broyé, tu sais, c'est les feuilles qui tombent au sol, etc. C'est vraiment la qualité merdique et c'est mélangé à énormément de produits chimiques. Bah, du coup, tu peux pas passer de l'un à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une. C'est comme je t'ai dit, c'est la même chose qu'avec le chocolat ou ce genre de choses. Et pour les gens qui ils critiquent la cigarette, mais ils fument le cigare, c'est vraiment, ça n'a absolument rien à voir. Un cigare, on n'inhale pas la fumée. Comme j'ai dit, il n'y a aucun produit chimique, c'est pas les mêmes quantités. Et vous, pour regarder toutes les études sur la santé, etc., déjà d'une, il n'y a pas d'accoutumance. Moi, ça m'arrive de passer un mois et quelques sans fumer de cigare. Quand je suis à la chasse, des fois, pendant 3, 4 jours, 5 jours, je touche pas un cigare. Donc, c'est pas du tout, il y a zéro accoutumance avec le cigare. Enfin. Moi,
le seul risque du cigare, c'est le cancer de la
langue et du palais. Limité.
Il est assez limité quand même.
C'est assez limité, mais même s'il y a un risque. Mais encore une fois,
comme tout, mec. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est-à-dire le sucre, il y a un risque. L'alcool, il y a un risque. La motocross, il y a un risque. S'ils veulent vraiment tout aseptiser, ils interdisent
tout ça
aussi.
Voilà, le problème, c'est pas que ça, tu vois. Mais
le problème, c'est le bénéfice-risque et que tu fais ce que tu veux de ta vie. Je veux dire, le problème, c'est que si l'État ne contrôlait pas tout,
il n'y aurait aucun rapport avec la sécu, il n'y aurait aucun rapport avec l'argent des autres,
oui,
etc.
Oui, voilà, c'est ça.
Et le problème, c'est parce Exactement. Que tout est géré par l'État, donc ça a des impacts à tous les niveaux, ce que chacun fait dans sa
Exactement.
Vie. Mais si on était libre, Exactement. On serait les seuls responsables de nos actes.
Et mais tu vois, regarde, la preuve que ça éduque, c'est que ici, il faut comprendre qu'aux États-Unis, les gens dans les années 80 fumaient énormément de cigarettes. Hein. Les gens dans les années. Vous regardez les États-Unis des années 70-80, c'était comme en France. Tout le monde fumait la cigarette. Et aujourd'hui, plus personne. Il y a eu une éducation qui a été faite sur les jeunes générations. Je ne sais pas comment, mais la cigarette, ils ont réussi à le rendre parce que c'est beaucoup une question de culture. Aujourd'hui, la cigarette aux États-Unis, c'est crade. Tu vois ce que je veux dire ? Ça a une image crasseuse. Tu vois ? Ça fait les dents jaunes, tu ne sens pas bon. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est un truc de cassos. Donc, le fait d'avoir réussi. Non, mais c'est considéré comme un truc de cassos. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, ce n'est pas hype. Et du coup, les jeunes n'ont pas envie de s'y mettre parce que ce n'était pas du tout hype. Tu vois, ça te fait...
C'est pas romantisé. C'est comme...
Souvent, quand j'en parle aux clients, je dis que c'est un peu vu comme si vous voyez un mec boire une 8-6 dans la rue. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais. Okay, ouais.
Tu vois un mec boire une 8-6 dans la rue, pourtant, c'est une bière. Mais ça a la 8-6, ça a vraiment une image, les clochards, en plus tu bois dans la rue et tout, tu vois.
Ça fait un peu white trash.
Du coup, oui, ça fait trash, ouais, ça fait trash, tu vois. Ouais. C'est comme ça. Et moi, je me rappelle très bien, il n'y a pas si longtemps, une copine qui est allée en Suisse. Donc là, en Suisse, c'est comme la France, hein, au niveau de la consommation de cigarettes, tu vois, une américaine, okay. Hein, une texane. Quand elle est revenue, elle m'a dit, oh, elle n'en revenait pas des gens qui fument. Tu vois. Elle me disait, écoute bien, parce que la phrase, elle veut tout dire. Elle me dit, oh là là, mais en fait, les gens, ils marchent, ils font du vélo, donc tu as l'impression qu'ils font attention à leur santé, mais derrière, ils fument et tout, tous. Et je dis, oh, ben moi, je sais, je dis, oui, je sais. Elle me dit, non, mais même des filles jolies, hein. tu vois ce que je veux dire ? Tu vois le truc, des filles jolies. Ouais. C'est-à-dire, pour elle, ce n'était pas compatible, une jolie femme, et fumer la cigarette, vu que ça a cette image ici, tu vois.
La réalité, mec,
c'est les gens qui disent le cigare a aussi de la nicotine, il peut donc y avoir accoutumance. Il n'y a pas d'accoutumance. Je peux te le dire, je suis dans ce milieu. Oui, il y a de la nicotine naturellement dans le tabac. Hein. Elle n'est pas rajoutée ou quoi que ce soit. Hein. Mais je peux t'assurer qu'il n'y a pas d'accoutumance. Je vis dans ce milieu, je connais des potes à moi qui fument 3-4 cigares par jour, tu vois, et qui pourtant, quand on part à la chasse, pendant 4-5 jours, ne touchent pas un cigare, ils ne le ressentent absolument pas. Donc, il n'y a pas d'accoutumance.
Moi, c'est dire ce que tu veux, mec.
Le cas, c'est qu'il n'y a pas
d'accoutumance. Je peux fumer une cigarette une fois par mois, et puis c'est tout. Puis
oui, mais évidemment. Mais ça, d'ailleurs, il n'y a aucun problème à faire ça. Hein. Même que ce soit au niveau santé, etc. Le mec qui fume une cigarette, oh, bon, quand je suis en soirée, je fume une ou deux cigarettes. Ou voilà. Évidemment, il n'y a aucun problème à faire ça. Hein. Ça n'a pas d'incidence.
C'est toujours une question de personnalité addictive.
Quantité. Non, et puis c'est une question de quantité. C'est à partir où tu fumes régulièrement, etc. Après, au bout d'un moment, l'addiction s'installe. Et là, après, c'est ça a aussi des choses sur sur ta santé, les capacités. Là, c'est pareil, moi, le cigare, ça ne m'a jamais, par exemple, impacté mes capacités respiratoires. Pour le sport, etc., ça n'impacte pas ma façon d'absorber, de synthétiser la protéine, etc. Tout ce qui est lié à la cigarette qui la rend incompatible avec une bonne condition physique, etc. Tu vois. Ouais. Donc, sinon, j'aurais pas fait, parce que moi, je refuse d'être dépendant d'un truc ou d'avoir un truc qui m'affaiblit comme ça. C'est hors de question, tu vois.
Ah ouais, mais que ce soit le sucre, la cigarette, l'alcool,
je sais pas quoi. Exactement.
La dépendance, exactement. C'est une question de mental.
Je bois 4-5 verres par an. Hein.
Mais non.
D'alcool, mais moi je bois quasiment jamais. Hein. Les clients, ils hallucinent à chaque fois quand on va au cigar lunch, etc. Moi je prends que de l'eau gazeuse parce qu'en fait, comme je bois très peu d'alcool, comme ça quand je bois de l'alcool, je peux boire un truc qui me fait vraiment plaisir, tu vois. Moi je bois jamais d'alcool. Même une bière, s'il fait très chaud, ici l'été il fait chaud et tout, ça peut m'arriver une bière, tu vois, comme ça. Mais je te dis, dans l'année, franchement, si je bois 5 verres d'alcool dans l'année, c'est le max. Hein. Là, okay, depuis le début de l'année, j'ai dû boire 2 bières, tu vois.
Depuis janvier.
Ouais, ouais.
Je dois être en moyenne 3 par mois, ce qui reste quand même très raisonnable.
Oui, voilà, c'est rien du tout. Ouais. Non, mais après, il n'y a pas de souci. Même le mec qui me dit, moi je bois un verre tous les soirs et tout, on s'en bat les couilles, hein. Vous faites ce que vous voulez. C'est pas du tout. C'est pas la même chose que d'être alcoolique, de boire des grosses quantités, de se mettre des. Ça n'a rien à voir. Hein. Faut pas non plus tomber dans les excès. Le côté, tu sais, être des espèces de prêtres, non, c'est bon, tu vois, faut
pour moi, tant que tu fais de mal à personne et que tu assumes et que tu es responsable, très bien.
Voilà, c'est ça. Non, mais après, pour un homme, c'est bien de ne pas s'affaiblir quand même, tu vois. Moi, j'encourage les hommes à être forts et donc de ne pas faire des trucs, des comportements qui les affaiblissent du style, tu vois, être alcoolique, être se droguer, tu vois, fumer des tonnes de cigarettes ou manger des tonnes de sucre, même si tu assumes derrière. Je veux dire, tu vas avoir du mal à assumer ton rôle d'homme quand t'es obèse ou tu vois que tu crées un fort diabète, ce genre
c'est
de choses.
C'est un peu comme une société de fuyottes. Oui. Potentiellement, ils font rien de mal, mais t'as pas envie de vivre dans une société comme
bien
ça.
Bien sûr, surtout les mecs de chez nous. Ouais. J'ai envie de dire, c'est à nous de porter l'avenir. Vous avez un exemple à donner. On porte un petit peu, même pour votre famille, etc. Je veux dire, si vous êtes obèse, je suis désolé, mais non, vous pouvez pas assurer la sécurité de votre famille correctement ou faire votre rôle d'homme correctement. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire, pareil si vous êtes alcoolique, je suis désolé mais si vous êtes alcoolique vous avez il y a un problème. Après encore une fois,
là où je voulais en venir, c'est que en tant qu'individu t'as envie de vivre dans une société avec des hommes sur lesquels tu peux compter autour de toi.
Exactement, et ça n'a rien à voir avec la loi, avec l'État, avec ce qui devrait être interdit ou pas. C'est des conseils que je vous donne, c'est pas un truc voilà.
Et la réalité, mec, sur le fait que ce soit culturel, t'as tout à fait raison, parce que les individus n'ont pas besoin du gouvernement pour savoir ce qui est bon ou mauvais, comme dans la plupart des pays occidentaux. Oui. Le taux de tabagisme en Grande-Bretagne avait déjà considérablement diminué. En 2023, la proportion de la population n'ayant jamais fumé atteignait 63% contre 46% en 2011, selon l'organisation Action on Smoking and Health. Par ailleurs, le taux de tabagisme chez les adultes était de 10% en 2024, selon les données gouvernementales, et le taux de tabagisme chez les jeunes adulte a chuté de 26% en 2011 à 8% en 2024. Donc c'est déjà culturellement en train de diminuer de manière conséquente.
Mais tu sais, quand on parle si vous parlez à des jeunes, nous, c'est ce qu'on a fait quand on a fait No Country for Old Men. On a fait un épisode un peu avec un mec qui est au lycée, etc. Oui. Et puis Pierre, là, qui avait eu sa formation dans un lycée, il en parlait. J'ai même ma soeur qui travaille dans un lycée, tu vois, qui me disait, tu sais que les jeunes, ils fument plus de clopes en vrai. Depuis la cigarette électronique, les jeunes, ils ne fument plus de clopes. Donc ça, et tu vois, et la cigarette électronique, ça a fait diminuer le taux de consommation de tabac 100 fois plus, tu vois, 1000 fois plus que n'importe quelle loi, n'importe quelle taxe sur les paquets de cigarettes, etc. Tu vois. Donc alors après, on va pas rentrer dans un débat. Oui, mais est-ce que c'est mieux que ça ? Là, je veux même pas parler de ce sujet. C'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien la preuve que c'est pas les lois et c'est pas l'État qui dicte les choses. Tu vois, il a suffi que un truc culturellement devienne plus hype. Tu vois, pour faire tomber tout de suite la cigarette. Moi, quand j'étais au lycée, ou même les générations un peu en dessous de moi, la cigarette, c'était le truc, tu vois, vraiment. Et là, maintenant, pas du tout, tu vois. Ça les attire pas du tout. Maintenant, ils ont tous leur.
Après, mec, c'est pas un hasard non plus, mec. Hein. C'est vraiment.
Il avait du mal à trouver un briquet dans un lycée. Il était dans un lycée. Il avait du mal à trouver un briquet pour allumer son cigario, tu vois. Alors qu'avant, mec, je t'assure que t'allais dans n'importe. Enfin, toi, c'était pareil à l'époque. Hein. Je pense que tu te rappelles. Hein.
Ouais.
T'allais devant le lycée, tout le monde fumait.
Personne sur deux avait un briquet, ouais.
Oui, voilà.
Minimum. Et la réalité, c'est pas un hasard non plus, mec. C'est vraiment les générations, la nôtre et puis la leur, qui ont vu leur grand-père galérer à l'hôpital à cause du tabac.
Ouais, mais même là, c'est même plus les grands-pères, hein, parce que moi, tu sais, à l'époque,
non, ce que je veux dire, c'est que
chassés à l'époque et tout.
Eux, ils ont vu les conséquences directes au sein de leur famille.
Oui.
Et donc, je pense que ça joue aussi sur le fait.
Et la génération de nos parents, même. Hein, je veux dire, moi, j'ai une ex, son père. À 50 ans et quelques, le mec travaillait dans une usine de Renault, il fumait beaucoup, tu sais. Il était un mec solide et tout. Hein. Le week-end, elle lui dit au revoir, il va à l'usine le lundi. À un moment en réunion, il dit « ouais, je me sens pas bien », il sort, boum, mort, à cause de la cigarette. Je me rappelle très bien le père d'un pote à moi avec qui j'ai grandi, qui était parti vivre en Belgique. Un jour, je suis à la salle de sport et je vois mon pote, alors qu'il habite en Belgique, tu sais, qui est là, tu vois. Bah, je lui dis « bah alors, t'es en visite et tout ?» Il fait « ouais, bah mon père, qui avait une cinquantaine d'années, a fait un infarctus et tout. » Et pareil, c'était à cause de la cigarette et tout, il a failli crever. Enfin, c'était très courant, les mecs avec qui j'ai appris la chasse et tout, tous ces taux de 60 ans et tout, le nombre de mecs qui avaient eu des accidents cardiaques entre 50 et 60 ans liés à la cigarette, c'est dingue, quoi.
Alors qu'avant, au début de la cigarette, ils faisaient carrément de la pub pour dire que c'était bon pour la santé.
À l'époque, on n'avait pas le recul.
Là où je veux en venir, mec, c'est que les individus, ils ont un cerveau, ils analysent ce qui se passe autour d'eux et déterminent le bénéfice-risque de ce qu'ils font.
C'est ça,
comme bouffer des mars, se fumer des cigarettes ou s'enfiler une bouteille de whisky. Et tu parlais tout à l'heure de la weed en France, et moi, ça m'a fait penser à la prohibition aux États-Unis. Quelques années après le début de la prohibition, les taux de consommation d'alcool, ils étaient quasiment identiques à avant la prohibition.
Parce que les réseaux criminels
se mettaient en place et les gens trouvaient des solutions pour boire.
Ça a été, la prohibition, ça a été ça a financé la mafia, quoi. C'est génial pour eux. Mais d'ailleurs, je pense que tous les gros trafiquants, les trucs en France et en Angleterre, là, ils prient pour que le tabac soit interdit. Mais évidemment, t'imagines le marché à récupérer pour eux. Vous allez financer des réseaux, mais comme pomme pas permis. C'est encore plus c'est des produits encore plus faciles à passer. Tu vois ce que je veux dire ? Que la drogue, etc., qui est illégale partout. Là, tu peux utiliser des réseaux légaux.
C'est moins risqué.
Tu vois ce que je veux dire ? C'est moins. Et puis ensuite, d'acheminement pour ensuite passer par des réseaux illégaux de distribution. Enfin, non, c'est, je pense que pour eux, c'est le jackpot, là. La mafia, toutes les gangs, les machins, les gangs pakistanais et tout, là, en Angleterre, je pense que les gars, ils dansent.
Les gangs pakistanais en Angleterre, ils vont augmenter leurs bénéfices grâce au marché noir sur le tabac, et grâce à ça, ils vont pouvoir réinvestir dans de la prostitution de femmes rendues au statut d'esclavage avec l'économie souterraine.
Bien sûr.
Et en plus, c'est ce que ça fait, mec. Ça fait que des gens encore plus jeunes vont avoir accès à la cigarette parce qu'il y aura beaucoup plus d'offres sur le marché noir.
Ça va être contre-productif, c'est sûr et certain.
Ouais. Écoute, mec, j'avais une dernière question sur ce sujet-là avant de changer de sujet.
Oui, parce qu'il nous reste 13 minutes, alors ne...
On va faire vite, mais dernière question de ton expérience personnelle. Les gens qui fument des cigares en France ne fument pas de tabac en général ?
Ah non, c'est jamais les deux. C'est jamais les deux. Non, c'est jamais les deux parce que non, mais pour les raisons que je t'ai dites, c'est pas du tout le même type de public déjà. Et le cigare, c'est de temps en temps, c'est un plaisir qui est gustatif. Tu sais, parce que ça passe par le palais, c'est vraiment pour le goût que tu fumes un cigare.
Il y a pas dans un truc de
détente et tout, tu fumes. Donc, et comme je t'ai dit, une fois que les gens qui aiment le tabac ne peuvent pas aimer la cigarette. Au même titre, je te dis, au même titre qu'un mec, c'est comme dire, est-ce que les gens qui aiment, je sais pas moi, qui vont acheter des grands pâtissiers, est-ce qu'ils achètent aussi des croissants industriels ? Non, tu vois ce que je veux dire ? Le mec qui achète ses croissants en boulangerie ou son pain chocolat en boulangerie, c'est rarement aussi un gros consommateur de croissants industriels, parce que tu vois ce que je veux dire ? C'est pas le même type de public généralement, quoi.
Très bien, bah écoute, ça répond à ma question, parce que pour changer de sujet... Une fois n'est pas coutume, on va parler de la Turquie. Oui, contrairement à la France, il semble avoir compris qu'il vaut mieux attirer les entrepreneurs et les investisseurs plutôt que de les faire fuir. En effet, le président turc Erdogan a annoncé que son gouvernement offrirait une exonération fiscale de 20 ans sur les revenus étrangers et les bénéfices des entreprises gérant des activités à l'étranger depuis la Turquie. Dans le cadre d'un projet législatif visant à attirer les actifs détenus à l'étranger, les exportateurs et les sièges sociaux, Erdogan a dévoilé ces mesures vendredi lors d'un événement sur l'investissement à Istanbul, précisant que ce plan inclut une exception fiscale de 20 ans sur les revenus et gains étrangers pour les personnes ayant vécu à l'étranger et n'ayant pas été résidente fiscale en Turquie durant les 3 dernières années. Nous ne taxerons que les revenus générés en Turquie, s'ils en ont, a déclaré Erdogan. Le projet cible également les entreprises gérant des opérations internationales depuis la Turquie. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce genre d'actualité ?
Bah non, mais c'est intelligent, hein. Pourtant, je ne suis pas un fan d'Erdogan, mais voilà, hein. De toute façon, c'est vers ce genre de truc. Et je veux dire, pour eux, ils réagissent à comment l'Europe, et notamment l'Europe de l'Ouest, évolue. Hein. Je veux dire, tout ce qu'on perd, c'est un truc à gagner pour eux. Hein. Donc, on voit le même phénomène aux États-Unis. Chaque fois qu'un État comme la Californie a des réformes fiscales compliquées, les États comme le Texas ou d'autres États, tu vois, en profitent. Ils récupèrent les entrepreneurs derrière en réaction. Donc, je pense qu'Erdogan, il voit bien, hein, comment ça se passe en Europe. Il se dit, bah voilà, la Turquie, c'est quand même très proche, tu vois, pour eux. Aujourd'hui, c'est un pays qui est quand même très développé, tu vois, qui est pas spécialement... ça reste un pays musulman, mais je veux dire, c'est pas un pays qui a non plus qui est désagréable, je pense, à vivre au quotidien, etc. Donc, ça peut être intéressant pour eux. Donc, il a raison. Hein. Surtout que lui, il est dans un espèce de combat de guerre froide avec l'Europe, on va dire, tu vois. C'est quand même la Turquie avec le Qatar qui ont financé la plus grosse mosquée d'Europe en France, là, 32 millions d'euros, il me semble. Je sais plus où elle est. Elle est en construction, là. T'as vu ça ou pas ? Non ?
Non, moi, je peux regarder, attends.
Je sais plus où elle est. Elle est en France, là. Elle est en train d'être construite et c'est financé par la Turquie et le Qatar, tu vois. Donc, avec l'argent qu'ils gagnent, avec les entrepreneurs qu'ils récupèrent, eh ben, ils financent des mosquées en France, tu vois. Ils prennent les entrepreneurs et ils mettent des mosquées, ils envoient des imams.
Tous les musulmans qui sont fait éduquer en France et qui sont devenus entrepreneurs en ligne, ils vont aller vivre en Turquie.
Mais c'est ça. Et ils envoient des imams.
Tout comme s'ils allaient à Dubaï. C'est à Strasbourg, d'après ce que je vois.
Voilà, Strasbourg.
Si c'est ça dont tu parlais, même.
Ouais, sûrement, oui. Plus grosse mosquée d'Europe, c'est ça. Hein.
Ouais, c'est la plus grosse mosquée d'Europe aussi. Putain.
Ouais, voilà. Voilà, voilà, tu vois.
Après, il y a une demande. Hein.
Ah, mais non, mais évidemment. Et puis, il y a des financements étrangers. Donc, comme j'ai dit, hein, c'est des financements étrangers. Hein. Donc,
la démographie fait tout.
Ouais. Et ouais.
Parce que, en fait, c'est la compétitivité fiscale, tout simplement. Dans un monde où les individus et les entreprises deviendront toujours de plus en plus mobiles, qu'est-ce que tu penses de cette théorie qui affirme qu'on va de plus en plus avoir des pays qui vont devenir compétitifs fiscalement pour attirer tous ces entrepreneurs mobiles?
Ah oui, il va y avoir une. C'est ce que j'ai dit, c'est une action-réaction. Il va forcément y avoir une sorte de scission et de bipolarité qui va se mettre dans le monde entre les républiques socialistes et les pays libéraux. Ça va être de plus en plus dichotomique. Ça va vraiment être, pas dichotomique, c'est pas ce que je veux dire, manichéen, hein, tu vois, noir-blanc, ah oui. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça va être très, très, très ciblé.
Les gens sont mobiles, plus les gens ont la capacité de travailler à distance.
Parce que c'est une opportunité pour des pays qui étaient moins riches de se développer aussi, tu vois. Les pays, on le voit, hein, comme l'Estonie, ces pays-là, tu sais, sont des pays européens plutôt libéraux, ils gagnent à recevoir des entrepreneurs, des gens qui ont de l'argent et qui maintenant s'installent chez eux et qui du coup développent l'économie locale, tu vois. Donc pour eux, c'est une aubaine aussi.
C'est la beauté de la compétition à tous les niveaux, parce que, alors déjà un petit chiffre, au Paraguay, il y a eu une augmentation de 80% des demandes de résidence cette année, avec 19 000 demandes de résidence sur les 3 premiers mois de l'année, pour vous donner une idée. C'est énorme, mais c'est normal aussi, c'est la compétition. Ça se passe aussi exactement comme ça au Texas, aux États-Unis, beaucoup de gens vont vivre au Texas, au Tennessee, en Floride, pour ces mêmes raisons. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est que le monde change, et donc plus il y a cette opportunité d'être mobile, de travailler à distance, de gérer les entreprises à distance.
Plus ça va encourager ce phénomène.
Et ça fait qu'on voit un peu d'espoir par rapport au passé où tout le monde était un peu condamné à rester dans son pays s'il avait son entreprise dans son pays.
Ah non, mais tout à fait, tout à fait. Et on va voir, c'est pour ça que ça va s'accélérer. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, ce phénomène va se devenir
c'est plutôt positif.
Plus courant. Oui, c'est positif, mais c'est sûr que ça va aussi accélérer le déclin des sociétés occidentales socialistes.
Ouais. C'est vrai.
Mais d'ailleurs, il va y avoir une réponse aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une réponse aussi. C'est-à-dire que les sociétés socialistes vont répondre, mais pas de la bonne façon. Moi, je suis certain qu'on va voir apparaître des lois bientôt sur les... Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es français, si tu ouvres ta société à l'étranger, tu n'as plus le droit... Tu vois ce que je veux dire? Des trucs complètement dictatoriaux, tu n'as plus le droit de... Je sais pas moi, par exemple, le transit des fonds, tu vois ce que je veux dire, vers des clients français, vers des sociétés étrangères vont être taxés, ou je sais pas, là je dis n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux dire, on va avoir des barrières qui vont être mises comme une réaction de panique, je pense, de la part de l'Angleterre, la France, l'Allemagne, toutes ces sociétés-là.
Avant, les pays communistes, mec, ils mettaient des barrières physiques pour que les gens puissent pas s'enfuir, parce que c'est les seuls, il n'y a que dans les sociétés socialistes.
T'as vu l'Allemagne maintenant, si tu pars de 3 mois d'Allemagne, je ne sais plus combien c'est, là, 2-3 mois, il faut demander une autorisation au gouvernement.
Tous les hommes en âge de se battre, s'ils veulent partir plus de 3 mois d'Allemagne, doivent demander l'autorisation à l'armée allemande.
Voilà. Donc tu vois, donc les barrières physiques de déplacement, elles peuvent être mises en place. Hein. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel renoncement dans la liberté individuelle en Europe, tu vois, que c'est plus un sujet qu'on peut revenir à des techniques tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'était commun, c'est devenu complètement associé à la dictature, etc. Et là, ça redevient commun, ça redevient acceptable. Mais c'est aussi le Covid qui a fait ça, hein, Covid. Je veux dire, la France, elle n'avait pas connu de fermeture des frontières. D'un seul coup, c'était possible. Ah bon, on pouvait fermer les frontières. D'un seul coup, tu pouvais empêcher les gens de rentrer ou de sortir. Et ça a été accepté. Les gens ont accepté ça. Donc à partir du moment où ça a été accepté pour le Covid, on te le fera accepter pour autre chose aussi. Hein. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'un jour ce soit...
Toutes les sociétés socialistes communistes mettent des barrières physiques, mais maintenant ils vont aussi mettre des barrières virtuelles pour s'adapter à l'évolution du monde. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais il y a une proposition de loi qui revient à chaque budget et qui va finir par passer à un moment ou à un autre. C'est toutes les personnes qui ont quitté la France depuis moins de 15 ans vont devoir payer des impôts sur tous les bénéfices non réalisés. C'est le genre de choses qu'ils mettent en place. Au Canada, ils discutent d'une exit tax payée à 200 000 dollars pour toutes les personnes qui veulent quitter le Canada. Ils commencent à mettre en place ça à peu près partout. La meilleure des réactions, c'est évidemment d'arrêter d'être des putains de socialistes. Et je prie pour que les États-Unis aillent plutôt dans cette direction que dans l'autre. Imagine, mec, une seconde là. Imagine-toi, avec tout... les attraits que peut avoir la France, les paysages, la gastronomie, etc. S'ils mettaient en place une politique comme ça, Mais il y aurait tellement de gens qui iraient vivre en France.
Bah, il faudrait qu'ils règlent le problème de la sécurité aussi, parce que ça fait
ouais,
peur à beaucoup
de gens.
Ouais, mais
même au-delà de ça, je pense que ça tirerait quand
sinon,
même
Non, mais c'est surtout que il y a une grosse valeur ajoutée en France. Tu vois, je veux dire, dans la qualité de travail, dans la, comme tu dis, dans le patrimoine, etc. Il y a une valeur ajoutée qui est toute faite. Tu vois, les Allemands, par exemple, eux, c'est l'industrie. On sait, la qualité allemande, c'est connu dans le monde entier. Voilà, ils savent faire des perceuses, ils savent faire des moteurs, etc. Et le fait que ce soit allemand, tu sais, c'est un gage de truc. En France, on a ça pour la mode et la gastronomie, tu vois. Le vin, le machin et tout. Mais imagine le business, le monstre économique que ça serait si les producteurs de vin, de fromage, etc., la gastronomie, profitaient d'un système libéral, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, ce serait une machine, ce serait l'équivalent de la Silicon Valley version terroir, tu vois, version gastronomie. Putain. Évidemment, ce serait des vins français exportés. Enfin, ce serait des trucs de fou. Aujourd'hui, déjà, c'est le cas. Je veux dire, tu arrives déjà à trouver des vins français partout dans le monde, alors que c'est la merde, tu vois ce que je veux dire. Tu arrives déjà à trouver quand même du fromage. J'arrive à trouver du fromage de l'Osso Irati ici, au Texas, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est quand même malgré tout le bordel que c'est. Donc, imagine ce que ce serait, évidemment. Je veux dire, comme tu dis, hein, en France, tu plantes un truc, ça pousse, il y a du littoral, il y a de la truc, et puis même en qualité, artisanat, etc., il y a du travail qui est vraiment, enfin qui était, parce que c'est vrai que ça, c'est le problème, c'est que ça se perd, mais je veux dire, il y avait aussi une qualité artisanale et tout, une pâte en France, donc, enfin, je veux dire,
mais il y a des millénaires, il y a des millénaires de compétences développées en France qui valent de l'or,
c'est ça,
qui sont gâchées par le socialisme,
c'est ça, mais ça ne doit pas arriver. Pas donner trop d'espoir aux gens, c'est mort.
Et ça va pas changer la matière
non,
humaine.
Non, et puis en plus, je vais dire, c'est un cercle vicieux parce que comme ce sont nos compétences en France, elles sont artisanales plus que tout, tu vois. Elles étaient aussi dans l'innovation avant. Hein. Je veux dire, l'innovation en France, c'était un gros truc. Hein, je rappelle, hein, le Concorde, Airbus, tous ces trucs-là.
Les armes.
Je veux dire, le voilà. Et ça a été arrêté, l'innovation, tout ça a été arrêté parce que c'est absolument plus profitable. Et il est en train de se passer la même chose sur l'artisanat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tellement dur d'être un patron de TPE, PME, etc., que les gens n'ont plus envie. Les gars ne veulent plus reprendre la boucherie familiale. Les gars ne veulent plus reprendre l'exploitation familiale. Donc, les qualités on ne fait plus de la qualité parce que la qualité, ça coûte trop cher, c'est plus rentable, etc. Donc, les compétences en artisanat se perdent également. Et en fait, que ce soit en gastronomie, partout, ça ne va faire que de régresser. Parce que pour les mêmes, c'est les paramètres qui font ça, quoi.
Le socialisme détruit tout.
Ah, le socialisme détruit tout.
Il n'y a plus aucun intérêt à produire, à faire bien, à innover, à conserver des compétences, malheureusement. Et ouais. Pour terminer, mec, ce que je voulais te dire, c'était que les TPE, les PME, enfin, ou les trucs de ce type-là dans les petits villages français, les seuls trucs qui sont encore rentables, c'est les kebabs qui lavent l'argent de la drogue.
Ouais, exactement, les coiffeurs à 10 euros.
Ouais, trucs comme ça, malheureusement. Mais écoute, merci mec, on a fait notre heure d'émission telle que prévu. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter avant qu'on termine.
Non, c'est très bien.
Ouais. Allez, sur...
Allez sur Patreon, déjà j'ai posté la vidéo de la pêche à l'arc là, qui est sortie cette semaine.
Ouais.
Et puis tout à l'heure, juste après, je tourne le podcast, le nouveau épisode de No Country for Workmen. Donc n'hésitez pas à aller sur Patreon, vous abonner, 5 euros pour voir des dizaines et des dizaines de vidéos exclusives et c'est sans engagement. Donc si jamais ça ne vous plaît pas, vous vous désabonnez. Et voilà, pour 5 euros, pendant un mois, vous aurez eu accès à littéralement des dizaines de vidéos exclusives de qualité. Donc généralement, il y a un très faible taux de désabonnement parce que les gens sont très satisfaits, il y a du contenu régulier et c'est le cas aussi sur le Patreon du Guise, donc n'hésitez pas.
Merci mec, et j'ose pas dire ton site de jerky parce qu'à chaque fois je me gourre.
jerkytexas.fr.
Jerky Texas, il faut que je trouve un moyen mnémotechnique pour me rappeler de ça. Sinon allez sur patreon.com/leguise comme l'a dit Baptiste, tous les liens sont en description, il y a aussi leguise.com. Je te remercie mec, bon tournage avec tes poteaux de No Country for Walkman. Je te remercie mec, merci à tout le monde. Ciao les gars.
À bientôt, ciao.